Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter.
Et notre invité ce matin est commandant de l'Agence de l'innovation de défense des forces armées françaises. Il coordonne ce qu'on appelle le projet Red Team, ce groupe d'auteurs de science-fiction, de romans noirs et d'illustrateurs missionnés par le ministère des armées pour élaborer des scénarios sur ces guerres du futur qui nous attendent entre 2030 et 2060. Red Team qui vient donc de livrer sa troisième et dernière saison. Bonjour Jean-Baptiste Collat.
Bonjour.
La Red Team, elle existe depuis 2020, c'est inspiré des États-Unis, elle a pour l'appuyer une Purple Team, des experts, des scientifiques. Mais quand on voit le monde et les guerres qui se déroulent actuellement, est-ce que c'est bien sérieux et utile de demander à des artistes d'imaginer les guerres du futur ?
Alors c'est extrêmement sérieux, justement. Le ministère des Armées a souhaité ouvrir en 2018 sa réflexion, notamment par la création de l'Agence de l'innovation de défense sous l'impulsion d'Emmanuel Kiva, qui est actuellement le délégué général pour l'armement. Et il souhaitait justement que le ministère des Armées puisse réfléchir différemment. Mmh. Et donc faire appel à des gens qui sont capables justement d'imaginer et de voir les choses différemment, c'était essentiel pour le ministère des Armées, de manière à se plonger dans les menaces de demain.
Parce qu'on s'appuie quand même sur une réalité. Alors cette fois, dans la troisième saison, là, il y a deux scénarios, je ne rentre pas dans les détails, mais il y en a un avec un implant neuronal révolutionnaire qui permet d'acquérir des connaissances et compétences instantanément, donc de lever éventuellement une armée, y compris avec des enfants, des personnes âgées, etc. Et le deuxième scénario, c'est une ruée vers l'espace pour le tourisme et pour le minerai, des pays qui s'affrontent pour prendre le contrôle de Mars, de la Lune, de la spéculation, des drones. Et là, on pense Elon Musk ? Alors, à la fois SpaceX et les implants neuronaux Neuralink ?
Oui, tout à fait. Alors surtout sur le scénario espace, ce sont des entreprises privées qui prennent le contrôle de l'espace, alors appuyées par des États certes, mais on voit bien tout l'intérêt de ces entreprises privées pour la conquête spatiale et notamment l'exploitation des ressources minières qui sont dans ce scénario qui est assez inédit, le cœur du scénario et le cœur de la recherche qui va être fait par ces différents spécialistes de l'espace. Et on voit aussi toute la capacité des robots et l'avenir des robots avec des distances qui sont phénoménales aujourd'hui, et on voit bien que l'humain est un peu perdu au milieu de cet espace et ce new space qui se développe, et on voit tout l'intérêt de l'intelligence artificielle et des capacités d'exploitation à distance qui sont portées par des acteurs privés.
Ça veut dire que dans le cahier des charges de la Red Team, on s'appuie sur des faits réels en fait, qui datent d'aujourd'hui et qui vont juste se développer demain.
Alors la Red Team, c'est extrêmement sérieux et elle s'appuie sur tout un écosystème, notamment académique, avec l'université Paris Sciences et Lettres. Et on voit qu'il y a eu énormément d'acteurs différents qui ont travaillé sur ces scénarios. Donc vous avez des auteurs de science-fiction qui vont en effet aller chercher des choses un peu inédites, des choses nouvelles. Et puis on a des vrais experts, que ce soit des militaires ou des experts civils, qui vont aller chercher à chaque fois, chaque point, pour le sincériser et faire en sorte que le scénario, on y croit et qu'il soit très vraisemblable.
Et ça, c'est extraordinaire, parce que justement, il y a quelque chose de vraisemblable, il faut que ça paraisse vraisemblable, comme dans les films de science-fiction les plus dingues, impossible de ne pas penser, il y a un scénario qui s'appelle Hydre. On pense évidemment à Captain America, on pense à l'univers des Avengers, ça vous fait rire, mais vous êtes vraiment allé chercher au cœur de la culture pop américaine quelque chose comme une base de scénario pour imaginer les vraies guerres du futur.
Le but est de faire réagir, en effet. Le but est de faire cauchemarder les armées. Alors pas pour se faire plaisir, mais pour justement faire bouger les lignes et faire prendre en compte des menaces qui parfois paraissent assez éloignées, mais qui vont nous impacter demain, impacter nos démocraties. Et donc les armées françaises se doivent d'être à l'avant-garde aujourd'hui sur toutes ces questions. Et donc,
qu'est-ce que ça vous apporte, les Avengers par exemple?
Alors les Avengers, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que justement, ils se projettent dans des univers technologiques extrêmement poussé, et donc on va étirer des lignes narratives qui vont permettre de bousculer les choses et de se dire, demain, si cette technologie-là, elle vient nous impacter, comment on y répond? Comment est-ce que nos ingénieurs, comment nos chercheurs, comment nos forces opérationnelles, elles se préparent à cette avalanche technologique? Et puis ce qui est important dans la Red Team française, parce que on dit qu'on s'inspire beaucoup des États-Unis, mais en fait on a une vraie science-fiction,
voilà. Aussi, malgré tout, on a une vraie l'Odyssée de l'espace.
On a une vraie science-fiction française qui, elle, est socio-centrée par rapport à cette hyper technologie américaine.
C'est-à-dire
qu'on va mettre la philosophie, on va mettre les sciences sociales au cœur du débat. Et pour imaginer les mondes de demain, évidemment, il ne faut pas penser que technologique, il faut penser société également.
Et qu'est-ce que l'armée en tire concrètement de ces scénarios? Parce que la Red Team, elle existe depuis 2020. Vous dites, c'est pour penser les guerres de demain. Est-ce que déjà, il y a eu des applications concrètes des premiers scénarios qui avaient été imaginés à l'époque?
Alors, ce qui est très intéressant avec la Red Team, c'est qu'en effet, elle se projette en 2030, en 2060, c'est ce qu'on va voir dans l'ouvrage. Mais en fait, elle raconte
raconte. 2095.
Même 2095. Nos auteurs ont explosé les compteurs avec ce livre. Et donc derrière, on a quand même des applications qui sont très concrètes dès aujourd'hui. C'est-à-dire que si demain, par exemple, dans le livre, on invente un implant neuronal qui permet d'apprendre quasiment instantanément, eh bien quand on se penche sur les technologies aujourd'hui, eh bien on va voir qu'on a notamment à la Direction générale de l'armement, au CEA ou dans nombreux laboratoires en France, eh bien des technologies émergentes qui pourraient permettre d'atteindre ces technologies. Donc comment on les regarde, comment on les soutient et comment on va chercher des nouveaux acteurs qui vont faire demain.
Mais par exemple, il y a une application sur un porte-avions nouvelle génération, j'ai lu ça.
Oui, dans les premières saisons de la Red Team, nos auteurs avaient un petit peu bousculé certaines réalités et notamment là, ils avaient réfléchi à certaines menaces qui avaient remis en cause des réflexions. Alors évidemment, les armées ont pris ces réflexions, notamment pour le porte-avions nouvelle génération. Tout à fait.
Expliquez-nous ce qu'il peut se passer quand on est en 2095 et qu'on lit l'art de la guerre à l'aube du 22e siècle. Les leçons stratégiques, elles sont passionnantes parce que la prochaine phase de la guerre, elle sera diplomatique, militaire, mais elle entraînera aussi une sorte de confusion. Elle va brouiller absolument tous nos repères.
Oui, alors nos auteurs, dans leur réflexion, ont amené vraiment cette fusion entre l'humain et les biotechnologies. Et donc, on avait des lignes qui s'effaçaient un petit peu, et de manière à ce que ils ont révolutionné la manière dont, notamment, l'accès aux connaissances permettait à tout à chacun, finalement, d'accéder à la fois des choses très vertueuses, mais très dangereuses également, puisque chacun pouvait devenir un combattant et s'élever contre certaines menaces.
Justement, en 2095, dans le nouvel art de la guerre, désormais, la guerre est la société, et la société est la guerre. Et il y a donc brouillage des repères, les différents univers stratégiques, terrestres, aériens, spatials, maritimes, cyber, ne peuvent plus être distingués. Qu'est-ce que ça implique, ça, pour le coup, dans la manière de réfléchir aux guerres de demain ?
Ça nécessite pour les armées de penser globalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un côté un conflit qui ne va concerner que les armées et puis d'autre côté des risques ou des menaces qui ne vont concerner que la société. On le voit aujourd'hui même dans les conflits actuels. La guerre, elle ne se mène pas qu'avec les armées, elle se mène avec une nation tout entière. Et donc comment demain on intéresse aussi les forces vives de la nation et pas que les militaires à des sujets de défense, c'est primordial. Et on voit que dans les domaines cyber, dans les domaines des biotechnologies, dans les domaines de l'intelligence artificielle, et le ministre des armées, Sébastien Lecornu d'ailleurs, a créé une agence dédiée à l'intelligence artificielle de défense. On doit réintégrer tous ces sujets-là au cœur des sujets de la société pour les armées, pour la défense de la démocratie.
Alors vous nous dites ça, et en même temps il y a un certain nombre de scénarios, et une partie de ces scénarios qui sont quand même classés secret défense. Jean-Baptiste Collat, alors c'est utile à l'armée, ça on l'a compris. En revanche, côté SF, dans le milieu de la SF, cette initiative elle est quand même assez critiquée. Par exemple, le grand écrivain Alain Damasio qui dit « On ne peut pas utiliser l'imaginaire de la création dans des buts militaires. » Il y a certains auteurs qui avaient accepté de voir leur anonymat levé, en tout cas de voir leur nom dévoilé, qui ont aussi été très critiqués sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, ils sont jaloux parce qu'ils ne sont pas dans la Red Team. C'est pour ça.
C'est ça.
Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que doit pas y avoir de tabou dans la société, en tout cas en termes de réflexion, et que beaucoup de nos auteurs et autrices qui sont venus travailler pour la Red Team ont dit que c'est un engagement citoyen.
Mais là, au service de la guerre, quand même.
Pas au service de la guerre, au service des défis futurs pour que la France, demain, continue à être la France qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une démocratie, et qu'on n'ait pas, justement, un nouvel ordre qui puisse venir contrecarrer, eh bien, à la fois les menaces, les risques, et se faire finalement complètement renverser par une technicité, une technologie qu'on n'aurait pas vu venir.
Il y a quelque chose de très fort, c'est que vous tirez bilan de batailles qui ont évidemment pas encore eu lieu, la bataille d'Emeulus par exemple, qui est absolument terrible, mais ce qui est très fort, c'est que les scénarios de la Red Team, ils sont parfois accablants pour la France, et ça pour le coup c'est intéressant comme démarche. En général, l'armée, on l'appelle parfois la grande muette, on peut être fier de son armée. Il est assez rare qu'une armée s'auto-dénigre ou publie des documents qui montrent ses lacunes, qui montrent ses difficultés, ce retard par exemple, comme une forme de déni. C'est le premier scénario. Dans le premier scénario, la France n'équipe ni ne forme son personnel militaire à cet implant dont on parlait en commençant l'entretien, le Neikun. C'est pas Starlink, c'est le Neikun. Il y a une réticence de principe à l'innovation dans l'armée française, par exemple.
Alors non, les armées françaises sont très innovantes. Comme je vous disais, il y a une agence de l'innovation de défense qui a été créée. Par contre, ce qui est extrêmement important, et ça, c'est pas la Red Team qui l'a apporté, hein, le militaire, sa raison d'être, c'est de toujours avoir un coup d'avance. Et donc, si on ne sait pas se remettre en cause, si on ne sait pas se poser les bonnes questions, eh bien, on est très vite dépassé. Et donc, c'est assez naturel, et ça peut parfois, en effet, paraître choquant, mais se poser les questions et se dire, mais est-ce que je suis au niveau, et remettre en question ses compétences en permanence, c'est quelque chose qui est très profondément ancré dans l'état d'esprit militaire. Et donc la Red Team, finalement, quand elle va dire bah, « les armées françaises, vous n'êtes pas au niveau bah, », nous, ça nous permet de réagir et ça nous permet justement de se dire comment on fait demain pour être au niveau et pour répondre...
Pour avoir le Neikoun.
Voilà, pour avoir le Neikoun.
Jean-Baptiste, voilà, quand vous voyez quand même ce matin dans la tribune dimanche, par exemple, le ministre des Armées qui parle des nouvelles guerres et en même temps il promet à l'Ukraine des centaines de blindés pour 2024-2025 qui sont d'anciens blindés français, on est un peu loin de tout ça. L'armée française, elle a vraiment pris le tournant de la modernité d'après vous ?
Vous savez, il faut aussi savoir... pour les armées modernes, être rustique et savoir faire la guerre dans la durée. On voit qu'il y a des problématiques aujourd'hui de masse, des problématiques de formation, des problématiques également d'acceptabilité sociale, de tout un tas de sujets qui sont liés à la guerre. Et donc, à la fois, on doit être face à une armée moderne, on doit être une armée moderne, mais on doit être également une armée qui résiste dans le temps. Et ça, on voit bien, même le SEMA aujourd'hui, Thierry Burkhard, eh bien, c'est quelque chose qu'il défend. Et on ne doit pas être que tourné vers la technologie. On doit également être tourné vers l'humain et vers la compréhension des nouveaux mécanismes de la guerre.
Vous dites qu'il faut savoir innover, il faut savoir se remettre en cause. Et en même temps, c'est la dernière saison de la Red Team. Pourquoi ça s'arrête ?
Parce que c'était une expérimentation. On l'avait dit dès le début. Alors nous, on est plutôt contents que les gens soient choqués que la Red Team s'arrête. Mais la Red Team s'arrête. On a appris énormément de choses et il y a quelque chose de nouveau qui va se lancer à la fin de l'année.
Ah.
J'en dis pas plus. Mais il y a
une
Red Team un peu plus forte, même un peu plus inclusive dans la société. C'est-à-dire que on voit bien que la Red Team, elle a beaucoup intéressé les armées. Nous, on voudrait qu'elle intéresse toute la société sur les questions de défense, parce que l'anticipation stratégique, la prospective de défense, elle ne doit pas concerner, je le disais au début, que les armées. Et donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'ensemble des Français puissent réfléchir à leur défense demain, notamment par des récits de science-fiction ou par des récits d'anticipation? Eh bien, c'est des choses qui se travaillent au cœur du ministère des Armées et dans quelques mois, vous verrez, il y aura une annonce de fait.
On verra sous quelle forme alors ça va continuer. Le commandant Jean-Baptiste Collat, coordinateur du projet Red Team et de l'ouvrage Ces guerres qui nous attendent 2030-2060, saison 3 et ultime saison, donc disponible en librairie. Merci beaucoup à vous d'être venu sur France Inter.
Merci d'avoir été notre invité.